Chapitre 13. La sorcière de Savenay. Il faut maintenant que nos lecteurs nous permettent de jeter un coup d'œil en arrière, car nous avons, pour nous occuper des héros principaux de notre histoire, laissé en Bretagne des personnages qui méritent un certain intérêt. La Bretagne avait pris, dès la première conspiration, une part active au mouvement imprimé par les bâtards légitimés. Cette province, qui avait donné des gages de sa fidélité aux principes monarchiques, la poussait en ce moment non seulement jusqu'à l'exagération, mais encore jusqu'à la démence, puisqu'elle préférait le sang adultérin de son roi aux intérêts du royaume, et puisqu'elle poussait son amour jusqu'au crime, ne craignant pas d'appeler à l'aide des prétentions de ceux qu'elle regardait comme ses princes, des ennemis auxquels Louis XIV, pendant 60 ans, et la France pendant 2 siècles, avait fait une guerre d'extermination. Les conjurés bretons voulaient venger leur province de quelques injures reçues sous la Régence, et ils la décrétaient d'abord république, sauf à choisir un protecteur dût-il être espagnol. Toutefois, M. Dumaine eut eu beaucoup de chance. Voici ce qui s'était passé en Bretagne. Aux premières ouvertures des Espagnols, les Bretons prêtèrent l'oreille. Ils n'avaient point sujet de se mécontenter plus que les autres provinces, mais à cette époque, les Bretons n'étaient pas encore ralliés hautement à la nationalité française. C'était pour eux une bonne guerre à faire. Ils ne voyaient pas d'autre but. Richelieu les avait sévèrement domptés. Ils ne sentaient plus sa rude main et pensaient à s'émanciper sous Dubois. Ils commencèrent par prendre en haine les administrateurs que leur envoya le régent. Une révolution a toujours commencé par l'émeute. Montesquieu était chargé de tenir les États. C'était une charge de vice-roi. On entendait les griefs des peuples et on percevait leur argent. Les États se plaignirent beaucoup, mais ils ne donnèrent pas d'argent parce que, disaient-ils, l'intendant leur déplaisait. Cette raison parut mauvaise à Montesquieu, homme du vieux régime, accoutumé aux façons de Louis XIV. « Vous ne pouvez offrir ces plaintes à sa majesté, dit-il, sans vous mettre dans l'attitude de la rébellion. Payez d'abord, vous vous plaindrez ensuite. Le roi écoutera vos doléances, mais il ne veut pas de vos antipathies contre un homme honoré de son choix. » Le fait est que M. de Montaran, dont la Bretagne croyait avoir à se plaindre, n'avait de tort réel que d'être à cette époque intendant de la province. Tout autre eût déplu comme lui. Montesquieu n'accepta donc pas les conditions et persista dans la perception du don gratuit. Les États persistèrent dans leur refus. M. de Montesquieu fit sa moue dédaigneuse, tourna les talons aux députés qui en firent autant, et chacun se retira dans sa dignité. Seulement le maréchal voulut patienter. Il se croyait des dispositions à la diplomatie. Il espérait que des réunions particulières remettraient en ordre ce que les sentiments d'esprit de corps avaient si mal à propos embrouillé. Mais la noblesse bretonne est fière. Humiliée d'avoir été ainsi traitée par le maréchal, elle resta chez elle et ne parut plus aux réceptions de ce seigneur qui resta seul, fort désappointé, passant du mépris à la colère et de la colère aux folles résolutions. C'est là que l'attendaient les Espagnols. Montesquieu, correspondant avec les autorités de Nantes, de Quimper, de Vannes, de Rennes, écrivit qu'il voyait bien qu'il avait affaire à des mutins et à des rebelles, mais qu'il aurait le dernier et que les 12 000 hommes de son corps d'armée apprendraient aux Bretons la vraie politesse et la véritable grandeur d'âme. Les États se réunirent. De la noblesse au peuple, il n'y a qu'un pas en cette province. L'étincelle alluma la poudre, les citoyens s'associèrent. On annonça clairement à M. de Montesquieu que s'il avait 12 000 hommes, la Bretagne en renfermait 100 000, qui apprendraient à ses soldats, avec des pavés, des fourches, des mousquets même, à se mêler de ce qui les regardait, mais pas d'autre chose. Le maréchal assura qu'il y avait en effet 100 000 associés dans la province et que chacun avait sa pierre ou son arme. Il réfléchit et les choses en demeurèrent là, fort heureusement pour le gouverneur de la Régence. Alors la noblesse, se voyant respectée, s'adoucit et formula très convenablement sa plainte. Mais d'un autre côté, Dubois et le conseil de Régence ne voulurent pas se dédire. Ils traitèrent cette supplique de manifeste hostile et s'en servirent à instrumenter. Après la généralité, le détail arrive. Montaran, Montesquieu, Pontcallec, Talouette furent les champions qui se battirent réellement entre eux. Pontcallec, homme de cœur et d'exécution, s'était uni aux mécontents de la province, et de ces éléments, encore informes, avait fécondé le germe du combat que nous avons examiné. Il n'y avait plus à reculer, la collision était imminente, mais la cour ne soupçonnait que la révolte pour l'impôt, elle ne voyait rien de l'affaire d'Espagne. Les Bretons, qui minaient sourdement la régence, criaient bien haut « À l'impôt, au Montaran !» pour qu'on n'entendît pas le bruit de leurs sapes et de leurs complots antipatriotiques. Mais l'événement tourna contre eux. Le régent, qui peut passer pour un des plus habiles politiques de son siècle, devina le piège sans l'avoir aperçu. Il se douta que derrière ce fantôme, sous ce grand voile local, il se cachait autre chose, et pour bien voir cette autre chose, il laissa tomber, ou plutôt il enleva le voile, il retira son Montaran et donna gain de cause à la province. Aussitôt, les conspirateurs furent démasqués, tout le monde était satisfait, eux seuls restèrent en vue et engagés, les autres baissèrent pavillon et demandèrent merci. Alors Pontcallec et ses amis formèrent le projet que nous connaissons. Ils usèrent de moyens violents pour faire arriver à eux le but vers lequel ils ne pouvaient plus aller sans être découverts. La révolte n'avait plus de motif, mais elle avait encore des vestiges fumants. Ne pouvait-on, dans cette cendre tiède encore, trouver l'étincelle qui rallumerait l'incendie ? L'Espagne veillait. Alberoni, battu par Dubois dans la fameuse affaire de Sellamare, attendait sa revanche. Et tout le sang de l'Espagne, tous les trésors préparés pour favoriser le complot de Paris, il n'hésitait pas à les envoyer en Bretagne, pourvu qu'ils fussent employés utilement. Seulement c'était tard. Il ne le crut pas et ses agents le trompèrent. Pontcallec se figura que recommencer la guerre était possible, mais alors que la France faisait la guerre à l'Espagne. Il se figura que tuer le régent était chose possible, mais lui-même et Nonchanlet devaient faire ce que personne n'eût conseillé au plus cruel ennemi des Français à cette époque. Il compta sur l'arrivée d'un vaisseau espagnol chargé d'armes et d'argent. Le vaisseau n'arriva pas. Il attendait des nouvelles de Chanlet. Ce fut La Jonquière qui écrivit « Et quelle La Jonquière !» Un jour, Pontcallec et ses amis étaient réunis dans une petite chambre de Nantes, près du vieux château. Leur contenance était triste, irrésolue. Ducouédic annonça qu'il venait de recevoir un billet par lequel on l'engageait à prendre la fuite. « J'en ai un pareil à vous montrer, dit Montlouis. On me l'a glissé sous mon verre, à table. Et ma femme, qui ne s'attendait à rien, a été fort effrayée. « Moi, dit Alouette, j'attends et ne crains rien. La province a repris du calme, les nouvelles de Paris sont bonnes. Et tous les jours, le régent fait sortir de la Bastille quelques-uns des détenus de l'affaire d'Espagne. « Et moi, messieurs, dit Pontcallec, que je dois vous donner communication, puisque vous en parlez, d'un avis bizarre que j'ai reçu aujourd'hui. Montrez-moi votre billet, dit Quédic. Vous le vôtre, mon Louis. Peut-être est-ce la même écriture, peut-être nous tentons un piège. » Je n'en crois rien, car si l'on nous veut loin, c'est pour que nous échappions à un danger quelconque. Encore, nous n'avons pas à craindre pour notre réputation, elle n'est pas en jeu. Les affaires de la Bretagne sont terminées pour tout le monde. Votre frère, Talouette, et votre cousin se sont enfouis en Espagne. Solduc, Rohan, Serentex, Ambilly, le conseiller au Parlement ont disparu. Pourtant, on a trouvé naturelle leur appréhension. C'est une simple cause de mécontentement qui les chasse. J'avoue que si le billet se répétait, je partirais. « Nous n'avons rien à craindre, mon ami, dit Pontcallec de même. Il faut le dire, jamais nos affaires n'ont été plus prospères. Voyez, la cour ne se méfie plus de rien, sans quoi nous serions déjà inquiétés. La Jonquière a écrit hier, il annonce que Chanlet va partir pour la Muette où le régent vit comme un simple particulier, sans garde, sans méfiance. « Cependant, vous êtes inquiet, répliqua Ducouédic. Je l'avoue, mais ce n'est pas pour la raison que vous croyez. Qu'y a-t-il ? Quelque chose de personnel. À vous ? À moi-même. Et tenez, je ne saurais le dire à meilleure compagnie et à des amis plus dévoués ou qui me connaissent mieux. Si jamais j'étais inquiété, si j'étais mis dans l'alternative de rester ou de fuir pour échapper à un danger, eh bien, je resterais. Savez-vous pourquoi ? Non, parlez. J'ai peur. Vous, Pokalek, vous, peur, que veulent dire ces deux mots à côté l'un de l'autre? Mais oui, mes amis, l'océan est notre sauvegarde. Il n'est pas un de nous qui ne trouve son salut sur une de ces 100 000 embarcations qui croisent sur la Loire à Paimboeuf, à Saint-Nazaire. Mais ce qui pour vous est salut, pour moi, est mort certaine. Je ne vous comprends pas, dit Alouette. Vous m'effrayez, dit mon Louis. Écoutez donc, mes amis, dit Poncalec. Et il commença, au milieu de la plus religieuse attention, le récit suivant. Car on savait que, pour que Poncalec eût peur, il fallait que la chose en méritât la peine. J'avais 10 ans, et je vivais à Poncalec, au milieu des bois, lorsqu'un jour que nous avions résolu, mon oncle Chrysogon, mon père et moi, d'aller faire une fureté de lapin à une garenne distante de 5 à 6 lieues, nous trouvâmes sur la bruyère une femme assise qui lisait. Et si peu de nos paysans savent lire que cette circonstance nous étonna fort, nous nous arrêtâmes en conséquence devant elle. Moi, je la vois encore comme si c'était hier, quoiqu'il y ait près de 20 ans de cela. Elle portait le costume noir de nos Bretonnes, avec la coiffe blanche, et était assise sur une grosse gerbe de genêt en fleurs qu'elle venait de couper. De notre côté, nous étions disposés ainsi. Mon père était monté sur un beau cheval bai brun à crinière dorée, mon oncle sur un cheval gris, jeune, vif et ardent, et moi sur un de ces jolis poneys blancs qui joignent au ressort d'acier de leur jarret la douceur de la brebis, blanche comme eux. La femme leva les yeux de dessus son livre et nous aperçut groupés devant elle et la regardant avec curiosité. En me voyant ferme sur mes étriers, près de mon père qui paraissait fier de moi, cette femme se leva tout à coup et, s'approchant de moi, « Quel dommage » dit-elle. « Que signifie cette parole ?» demanda mon père. « Elle signifie que je n'aime pas ce petit cheval blanc, » répondit la femme au genêt. « Et pourquoi cela, la mère ?» Parce qu'il portera malheur à votre enfant, sire de Poncalec. Nous sommes superstitieux, nous autres Bretons, vous le savez, de sorte que mon père, qui pourtant, vous savez encore, mon Louis, était un esprit ferme et éclairé, s'arrêta, malgré les instances de mon oncle Chrysogon, qui l'invitait à se remettre en marge, et, tremblant à l'idée qu'il pourrait m'arriver quelque malheur, ajouta « Cependant, ce cheval est doux, bonne femme, et Clément le manie très bien pour son âge. Moi-même, j'ai souvent monté cette bonne petite bête pour me promener dans le parc, et ses allures sont d'une égalité parfaite. »« Je ne comprends rien à tout cela, marquis de Gouer, » répondit la bonne femme. « Seulement, le bon petit cheval blanc fera du mal à votre Clément, c'est moi qui vous le dis. »« Et comment pouvez-vous savoir cela ?»« Je le vois, » répondit la vieille avec un accent singulier. « Mais quand cela ?» demanda mon père. « Aujourd'hui même. » Mon père pâlit, moi-même j'eus peur, mais mon oncle Chrysogon, qui avait fait toute la guerre de Hollande et qui était devenu esprit fort en se battant contre les Huguenots, se mit à rire et à se renverser de cheval. « Parbleu, dit-il, voilà une bonne femme qui bien certainement s'entend avec les lapins de Savenay. Que dis-tu de cela, Clément? Ne veux-tu pas retourner à la maison et te priver de la chasse ?» « Mon oncle, répondis-je, j'aime mieux continuer ma route avec vous. »« Ah, c'est que te voilà tout pâle et tout singulier. Aurais-tu peur par hasard ?»« Je n'ai pas peur, répondis-je. Je m'en tais, car je sentais en moi un certain frémissement qui ressemblait fort au sentiment que je tentais de dissimuler. » Je restai donc sur le poney blanc. 2 heures après, nous étions à la garenne et la chasse commença. Tout le temps que dura la chasse, le plaisir nous fit oublier la prédiction. Mais la chasse terminée, quand nous nous retrouvâmes, mon père, mon oncle et moi, « Eh bien, Clément, me dit mon oncle, te voilà encore sur ton poney, diable, tu es un garçon hardi. » Je me mis à rire et mon père aussi. En ce moment, nous traversions une lande aussi plate et aussi unie que le carreau de cette chambre. Pas d'obstacle à franchir, aucun objet même capable d'effrayer les chevaux. Au même instant, néanmoins, mon poney fait un bond en avant qui m'ébranle, puis il se cabre violemment et m'envoie à 4 pas roulés sur le sable. Mon oncle se mit à rire. Quant à mon père, il devint aussi pâle que la mort. Pour moi, je ne bougeais pas. Mon père sauta en bas de son cheval et me releva. J'avais la jambe cassée. Dire la douleur de mon père et le cri de nos gens, ce serait encore possible, mais quant au morne désespoir de mon oncle, il fut inexprimable. On fit venir le meilleur chirurgien de Nantes, lequel me déclara en grand péril. Mon oncle demandait pardon toute la journée à ma mère, et l'on remarqua que pendant le temps que dura ma maladie, il avait entièrement changé de genre de vie. Au lieu de boire et de chasser avec les officiers, au lieu de faire sur son lougre amarré à Saint-Nazaire les plus belles parties de pêche dont il est amateur, il ne quittait plus mon chevet. La fièvre dura 6 semaines et la maladie près de 4 mois. Mais enfin, je fus sauvé. Je ne conservais même aucune trace de l'accident. Lorsque je sortis pour la première fois, mon oncle m'accompagna en me donnant le bras. Mais lorsque la promenade fut finie, il prit les larmes aux yeux congé de nous. « Et où allez-vous donc, Chrysogon ?» lui demanda mon père tout étonné. « J'ai fait vœu, répondit cet excellent homme, si notre enfant échappait à la mort, de me rendre chartreux, et je vais exécuter cette promesse. » Alors ce fut un autre désespoir. Mon père et ma mère jetèrent les hauts cris. Je me pendis au cou de mon oncle pour le décider de ne pas nous quitter. Mais le vicomte était un de ces hommes qui ne reculent jamais devant les paroles engagées et les vigoureuses résolutions. Les prières de mon père et de ma mère furent vaines. Il resta inébranlable. « Mon frère, dit-il, je ne savais pas que Dieu daigna quelquefois se révéler aux hommes par des actes mystérieux. J'ai douté, je dois être puni. D'ailleurs, je ne veux pas que mon plaisir en cette vie me prive d'un salut éternel. » À ces mots, le vicomte nous embrassa, mit son cheval au galop et disparut. Et puis il se renferma dans la chartreuse de Morlaix. 2 ans après, les jeûnes, les macérations et les chagrins avaient fait de ce bon vivant, de ce joyeux compagnon, de cet ami dévoué, un cadavre anticipé et presque insensible. Enfin, au bout de 3 ans de retraite, il mourut en me laissant tous ses biens. « Diable, voilà une effrayante histoire, » dit Dick Wedick en souriant, « mais elle a son bon et son mauvais côté, et la vieille avait oublié de dire que la jambe cassée doublerait ta fortune. » « Écoutez, dit Poncalec, plus grave et plus sérieux que jamais. »« Ah, ce n'est point encore fini, dit Alouette. Nous sommes au tiers seulement. »« Continue, nous écoutons. »« Vous avez tous entendu parler de l'étrange mort du baron de Caradec, n'est-ce pas ?»« Oui, notre ancien camarade de collège de Rennes, dit Montlouis. On l'a trouvé assassiné il y a 10 ans dans la forêt de Châteaubriand. » C'est cela. Écoutez, mais faites attention que ceci est un secret qui, jusqu'à présent, n'a été connu que de moi seul et qui, désormais, ne doit être connu que de moi et de vous. Les 3 Bretons, qui d'ailleurs prenaient un grand intérêt au récit de Poncalec, lui promirent que le secret qu'il allait leur confier leur serait sacré. Eh bien, dit Poncalec, cette grande amitié de collège dont parle Montlouis avait subi entre Caradec et moi quelque altération à propos d'une rivalité. Nous aimions la même femme et j'étais le préféré. Un jour, j'étais décidé d'aller chasser le daim dans la forêt de Châteaubriand. Dès la veille, j'avais fait partir mes chiens et mon piqueur qui devait détourner l'animal, et moi-même, je m'acheminais à cheval vers le rendez-vous, lorsque sur la route, je vis marcher devant moi un énorme fagot. Cela ne m'étonna point, vous savez que c'est l'habitude que nos paysans portent sur leur dos des fagots plus gros et plus grands qu'eux, de sorte qu'ils disparaissent derrière leur charge, qui semble alors, quand on les regarde de loin et qu'ils vous devancent, marcher toute seule. Bientôt le fagot qui me précédait s'arrêta. Une bonne vieille, en se tournant de mon côté, dessina son profil et, se faisant un point d'appui de sa charge même, se redressa sur le revers de la route. À mesure que j'approchais, mes yeux ne pouvaient se détacher de la bonne femme. Enfin, longtemps avant que je fusse arrivé devant elle, j'avais reconnu la sorcière qui m'avait, sur la route de Savenay, prédit que mon petit cheval blanc me porterait malheur. Mon premier mouvement, je l'avoue, fut de prendre un autre chemin, afin d'éviter la prophétesse de malheur. Mais elle m'avait déjà aperçu, et il me sembla qu'elle m'attendait avec un méchant sourire. J'avais 10 ans de plus que lorsque sa première rencontre m'avait fait frissonner. J'eus honte de reculer et je continuai mon chemin. « Bonjour, vicomte de Poncalec, me dit-elle. Comment se porte le marquis de Gouer ?»« Eh bien, bonne femme, lui répondis-je, et je serai assez tranquille sur sa santé jusqu'au moment où je le reverrai, si vous m'assurez qu'il ne lui arrivera rien pendant mon absence. »
Ah, dit-elle en riant, vous n'avez pas oublié la lande de Savenay, vous avez bonne mémoire, vicomte. Mais cela n'empêche pas que si je vous donnais aujourd'hui un bon conseil, vous ne le suivriez pas plus que la première fois. L'homme est aveugle.
Et quel est ce conseil, voyons?
C'est de ne pas aller à la chasse aujourd'hui, vicomte.
Mais pourquoi cela?
C'est de retourner à Pontcallec sans faire un pas de plus.
Je ne puis, j'ai donné rendez-vous à Châteaubriant.
Tant pis, vicomte, tant pis, car il y aura du sang de versé à cette chasse.
Le mien?
Le vôtre et celui d'un autre.
Vous êtes folle.
C'est ce que disait votre oncle Chrysogon. Comment va-t-il, votre oncle Chrysogon?
Vous ne savez pas qu'il est mort, voici bientôt 7 ans, à la chartreuse de Morlaix.
Ah, pauvre cher homme, dit la bonne femme, il était comme vous, il a été longtemps sans vouloir croire, mais enfin, il a cru, seulement, c'était trop tard.
Je frissonnais malgré moi, mais une mauvaise honte me disait au fond du cœur qu'il était lâche à moi de céder à de pareilles craintes et que sans doute le hasard seul avait réalisé la première prédiction de la prétendue sorcière.
Je vois bien qu'une première expérience ne vous a pas rendu plus sage, mon beau jeune homme, me dit-elle. Eh bien, allez à Châteaubriant, puisque vous le voulez à toute force. Mais au moins, renvoyez à Pontcallec ce beau couteau de chasse si brillant.
Et avec quoi, monsieur, coupera-t-il le pied du daim? Dit mon domestique qui me suivait.
Avec votre couteau, dit la vieille.
« Est-ce que monsieur le vicomte écoutera cette vieille sorcière ?» me dit mon domestique, qui sans doute avait peur d'être chargé de rapporter à Pontcallec l'arme fatale. « Si j'avais été seul, je serais revenu. Mais devant mon domestique, étrange faiblesse de l'homme, je ne voulus pas avoir l'air de reculer. « Merci, ma bonne femme, lui dis-je, mais je ne vois véritablement dans ce que vous me dites aucune raison de ne pas aller à Châteaubriant. Quant à mon couteau de chasse, je le garde. Si je suis attaqué par hasard, il me faut bien une arme pour me défendre.
« Allez donc, et défendez-vous, dit la vieille en branlant la tête. On ne peut fuir sa destinée. »
Je n'en dis pas davantage, car j'avais mis mon cheval au galop. Seulement, au moment d'entrer dans un coude du chemin, je me retournai, et je vis la bonne femme qui avait chargé son fagot et qui avait lentement repris sa route. Je tournai le coude et la perdis de vue. Une heure après, j'étais dans la forêt de Châteaubriant, et je vous rejoignais, mon Louis et Alouette, car vous étiez tous les deux dans cette partie.
« Oui, c'est vrai, dit Alouette, et je commence à comprendre. « Moi aussi, dit mon Louis. »
« Moi, je ne sais rien, dit Duquedic. Continuez donc, Pontcallec, continuez. »
Nos chiens lancèrent le daim, et nous nous lançâmes, nous, sur leurs traces. Mais nous ne chassions pas seuls dans la forêt, et l'on entendait au loin le bruit d'une autre meute qui allait se rapprochant de nous. Bientôt, nos deux chasses se croisèrent, et quelques-uns de mes chiens, se trompant de voix, partirent sur celle du daim chassé par la meute rivale. Je m'élançai après les chiens pour les rompre, ce qui m'éloigna de vous autres, qui suiviez la partie de la meute qui n'avait pas fait défaut. Mais quelqu'un m'avait prévenu, j'entendis mes chiens hurler sous les coups de fouet qu'on leur distribuait. Je redoublai de vitesse et trouvai le baron de Caradec qui frappait sur eux à coups redoublés. Je vous ai dit qu'il y avait entre nous quelques motifs de haine. Cette haine ne demandait qu'une occasion pour éclater en effet. Je lui demandai de quel droit il se permettait de frapper mes chiens. Sa réponse fut plus hautaine encore que ma demande. Nous étions seuls, nous avions 20 ans, nous étions rivaux, nous nous haïssions, chacun de nous avait une arme au côté, nous tirâmes nos couteaux de chasse, nous nous précipitâmes l'un sur l'autre, et Caradec tomba de son cheval, percé de part en part. Vous dire ce qui se passa en moi lorsque je le vis tomber et se tordre sur la terre qu'il ensanglantait dans les douleurs de l'agonie serait chose impossible. Je piquai mon cheval des deux et pointai comme un fou à travers la forêt. J'entendais sonner l'alali du daim et j'arrivais un des premiers. Seulement, je me rappelle, vous le rappelez-vous, mon Louis, que vous me demandâtes d'où venait que j'étais si pâle?
C'est vrai, dit mon Louis. Alors je me souvins du conseil de la sorcière et me reprochai bien amèrement de ne pas l'avoir suivi.
Ce duel solitaire et mortel me semblait quelque chose de pareil à un assassinat. Nantes et ses environs m'étaient devenus insupportables, car tous les jours j'entendais parler de ce meurtre de Karadec. Il est vrai que personne ne me soupçonnait, mais la voix secrète de mon cœur criait si fort que 20 fois je fus sur le point de me dénoncer moi-même. Ce fut alors que je quittai Nantes et que je fis le voyage de Paris, non sans avoir cherché à revoir la sorcière, mais je ne connaissais ni son nom ni sa demeure et je ne pus la retrouver. « C'est étrange, dit Alouette, et depuis, l'as-tu revue, cette sorcière ?»« Attends, attends donc, dit Pontcallec, car voici la chose terrible. » Cet hiver, ou plutôt l'automne dernier, je dis hiver parce qu'il neigeait ce jour-là, bien que nous ne fussions encore qu'en novembre, je revenais de Gouer et j'avais ordonné halte à Pontcallec des Aunes, après une journée pendant laquelle j'avais chassé avec 2 de mes fermiers la bécassine au marais. Nous arrivâmes transis de froid au rendez-vous et nous trouvâmes un grand feu et un bon souper préparé. En entrant et pendant que je recevais les saluts et les compliments de mes gens, j'aperçus dans le coin de l'âtre une vieille femme qui semblait dormir. Un large manteau de laine grise et noire enveloppait le fantôme. « Qui est là ? » demandai-je au fermier d'une voix altérée et en frémissant malgré moi. « Une vieille mendiante que je ne connais pas et qui a l'air d'une sorcière, me dit-il, mais elle était exténuée de froid, de fatigue et de faim. Elle m'a demandé l'aumône, je lui ai dit d'entrer, je lui ai donné un morceau de pain qu'elle a mangé en se chauffant, après quoi elle s'est endormie. » La figure fit un mouvement dans le coin de la cheminée. « Que vous est-il arrivé, monsieur le marquis ?» demanda la femme du fermier. « Vous êtes tout mouillé et que vos vêtements sont souillés de boue jusque sous les épaules. »« Il y a, ma bonne Martine, répondis-je, que vous avez failli vous chauffer et dîner sans moi, quoique vous ayez allumé ce feu et préparé ce repas à mon intention. »« Vraiment ?» s'écria la bonne femme effrayée. « Oui, monsieur a manqué périr, » dit le fermier. « Et comment cela, Jésus-Dieu, mon bon seigneur ?»« Enterrez tout vivant, ma chère Martine. Vous connaissez vos marais, ils sont pleins de tourbières. Je me suis aventuré sans sonder le terrain, et tout à coup, ma foi, j'ai senti que j'enfonçais bel et bien, de sorte que sans mon fusil que j'ai mis en travers, et qui a donné le temps à votre mari d'arriver et de me tirer d'affaire, je me noyais dans la boue, ce qui est non seulement une cruelle, mais bien pis que cela, une sotte mort. « Oh, monsieur le marquis, dit la fermière, au nom de votre famille, ne vous exposez pas ainsi. »« Laissez-le faire, » dit une voix sépulcrale, l'espèce d'ombre accroupie dans le coin de la cheminée. « Il ne mourra pas ainsi, je le lui prédis. » Et rabattant lentement la coiffe de sa mante grise, la vieille mendiante me montra le visage de cette femme qui, la première fois sur la route de Savenay et la seconde sur celle de Châteaubriand, m'était apparue pour me faire de tristes prédictions. Je restai immobile et comme pétrifié. « Vous me reconnaissez, n'est-ce pas ? » me dit-elle sans s'émouvoir. Je baissai la tête en signe d'assentiment, mais sans avoir le courage de répondre. Tout le monde faisait cercle autour de nous. « Non, non, rassurez-vous, marquis de Gouer, vous ne mourrez pas ainsi. »« Et comment le savez-vous ? » balbutiai-je, avec la certitude intérieure qu'elle le savait. « Je ne puis vous le dire, car je l'ignore moi-même, mais vous savez bien que je ne me trompe pas. » « Et comment mourrai-je » demandai-je en rappelant toutes mes forces pour lui faire cette question et tout mon sang-froid pour écouter sa réponse. « Vous mourrez par la mer, marquis, » me répondit-elle. « Comment cela ?» demandai-je. « Que voulez-vous dire ?»« J'ai dit ce que j'ai dit et ne puis m'expliquer davantage. Seulement, marquis, c'est moi qui vous le dis. Défiez-vous de la mer. » Tous mes paysans s'entre-regardèrent d'un air effrayé, quelques-uns marmottèrent des prières, d'autres firent le signe de la croix. Quant à la vieille, elle se retourna dans son coin, recouvrit sa tête de sa mante, et, comme si nous eussions été les dolmens de Carnac, elle ne répondit plus une seule parole. Peut-être les détails de cette scène s'effaceront-ils un jour de ma mémoire, jamais l'impression qu'elle me produisit. Il ne me resta pas l'ombre d'un doute, et cette prédiction dans l'avenir prit pour moi l'aspect presque palpable d'une réalité. Oui, continua de Pontcallec, dussiez-vous me rire au nez comme le fit mon bon oncle Chrysogon, vous ne me ferez pas changer d'avis un instant, et vous ne m'ôterez pas de l'esprit que cette dernière prédiction se réalisera comme les deux autres, et que c'est par la mer que je dois mourir. Aussi, je vous le déclare, les avis que nous avons reçus, fussent-ils vrais, fussé-je poursuivi par les exempts de Dubois, y eût-il une barque sur le bord du rivage, et n'y eût-il qu'à gagner Belle-Île pour leur échapper, je suis si convaincu que la mer me doit être fatale, et qu'aucun autre genre de mort n'a de puissance sur moi, que je me remettrai aux mains de ceux qui me poursuivraient, en leur disant, « Faites votre métier, messieurs, je ne mourrai pas de votre fait. » Les trois Bretons avaient écouté en silence cette étrange déclaration qui tirait une certaine solennité de la circonstance dans laquelle on se trouvait. Comme ils en étaient là, plusieurs gentilshommes avec lesquels ils avaient rendez-vous et qui faisaient partie de la conspiration entrèrent par des issues secrètes et sous des costumes différents. Ce n'était pas qu'on eût beaucoup à craindre de la police provinciale. Celle de Nantes, quoique Nantes fût une des plus grandes villes de France, n'était pas organisée de manière à inquiéter fort les conspirateurs, qui d'ailleurs avaient dans la localité l'influence du nom et de la position sociale. Il fallait donc que le lieutenant de police de la ville de Paris, le régent ou Dubois, envoyassent des espions spéciaux que le défaut de connaissance des lieux, la différence de l'habit et même celle de la langue rendaient facilement suspects à ceux qu'ils venaient surveiller. On s'occupa beaucoup dans cette séance d'une nouvelle opposition à un édit de Montesquieu et de l'armement de tous les citoyens bretons en cas de violence du maréchal. Ce n'était rien moins, comme on le voit, que le commencement de la guerre civile. On l'aurait fait en déployant un étendard sacré. L'impiété de la cour du régent et les sacrilèges de Dubois en étaient les prétextes et devaient susciter tous les anathèmes d'une province essentiellement religieuse contre un gouvernement si peu digne de succéder, disaient les conspirateurs, au règne si fervent et si sévère de Louis XIV. Pontcallec déclara donc à ses compagnons de révolte le plan arrêté par le comité supérieur, sans se douter qu'au moment même où il prenait toutes ces mesures pour renverser le gouvernement, la police de Dubois, qui les croirait chez eux, envoyait au domicile de chacun un détachement qui avait l'ordre de cerner la maison et un exempt qui avait mission de les arrêter. Il en résulta que tous ceux qui avaient part au conciliabule virent de loin briller à leurs portes les baïonnettes et les fusils des gardes et purent pour la plupart, prévenus du danger qu'ils couraient, échapper par une prompte fuite. Or ce n'était pas chose difficile pour eux que de trouver des retraites, car comme toute la province était du complot, ils avaient des amis partout. D'ailleurs, riches propriétaires qu'ils étaient, ils furent accueillis par leurs fermiers ou par leurs entrepositaires. Une grande partie réussit à gagner la mer et à passer, soit en Hollande, soit en Espagne, soit en Angleterre, malgré l'amitié que Dubois avait commencé de nouer entre les deux gouvernements. Quant à Pontcallec ou Ducoédic, à Montlouis et à Talouette, ils étaient, comme d'habitude, sortis ensemble. Mais comme Montlouis, dont la maison était la plus proche du lieu d'où ils sortaient, arrivait au bout de la rue où cette maison était située, ils aperçurent des lumières qui couraient à travers les fenêtres des appartements et une sentinelle qui, le mousquet en travers, barrait la porte. « Oh !» dit Montlouis en s'arrêtant et en arrêtant de la main ses compagnons. « Qu'est-ce que cela et que se passe-t-il donc chez moi ?»« En effet, » dit Alouette, « il y a quelque chose de nouveau, et tout à l'heure j'ai cru voir un poste devant l'hôtel de Rouen. » Voilà en effet qui est bizarre, dit Pontcallec, mais faisons une chose. Ma maison n'est qu'à quelques pas d'ici. Prenons par cette ruelle qui y conduit, et si ma maison est gardée comme celle de Montlouis, alors il n'y aura plus de doute à avoir et nous saurons à quoi nous en tenir. Alors, marchant tous quatre en silence et serrés les uns contre les autres pour être plus forts en cas d'attaque, ils arrivèrent à l'angle de la rue où demeurait Pontcallec et virent sa maison non seulement gardée, mais occupée. Un détachement de 20 hommes repoussait la foule qui commençait à s'attrouper. « Pour cette fois, dit Ducoédic, cela passe la plaisanterie, et à moins que le feu n'ait pris par hasard dans toutes nos maisons à la fois, je ne conçois rien à ces uniformes qui se mêlent de nos affaires. Quant à moi, votre serviteur m'est très cher, mais je déménage. » Et moi aussi, dit Alouette, je vais passer à Saint-Nazaire et gagner le Croisic. Si vous m'en croyez, messieurs, vous viendrez avec moi. Je sais là un brick qui va partir pour Terre-Neuve et dont le capitaine est un de mes serviteurs. Si l'air de terre devient trop mauvais, nous montons à bord, nous filons au large et vogue la galère. Allons, Poncalec, dit Mont-Louis, oubliez un instant votre sorcière et venez avec nous. Non pas, dit Poncalec en secouant la tête. Je connais mon avenir de ce côté-là et je ne me soucie pas d'aller au-devant de lui. Puis, réfléchissez, messieurs, que nous sommes les chefs et que c'est un singulier exemple que cette fuite anticipée sans que nous sachions bien parfaitement encore si un danger réel nous menace. Il n'y a pas la moindre preuve contre nous. La Jonquière est incorruptible, Gaston est intrépide. Les lettres que nous avons reçues de lui hier encore nous disaient que d'un moment à l'autre tout serait fini. Peut-être à 7 heures a-t-il frappé le régent et la France est-elle délivrée? Que penserait-on de nous si l'on pouvait dire qu'au moment où Gaston agissait, nous étions en fuite? Le mauvais exemple de notre désertion gâterait toute l'affaire ici. Faites-y bien attention, messieurs. Je ne vous donne pas un ordre de chef, mais un conseil de gentilhomme. Vous n'êtes donc pas forcé de m'obéir, car je vous délie de votre serment, mais à votre place, je ne partirai pas. Il a raison, dit Alouette. Mon oncle, mes frères, toute ma famille, tous mes amis sont compromis avec moi. Je me sauverai avec eux tous ou je mourrai avec eux. Mon cher Alouette, dit Mont-Louis, tout cela est bel et bon, mais s'il faut vous le dire, j'ai plus méchante idée que vous de cette affaire. Si nous sommes entre les mains de quelqu'un, c'est entre celles de Dubois. Dubois n'est pas gentilhomme et par conséquent déteste ceux qui le sont. Je n'aime pas ces gens mixtes qui n'appartiennent à aucune classe arrêtée, qui ne sont ni nobles, ni soldats, ni prêtres. J'aimerais mieux un vrai gentilhomme, un soldat ou un froquard. Au moins, ces gens-là sont soutenus par l'autorité de leur profession, qui est un principe, mais Dubois, il va vouloir faire de la raison d'État. Quant à moi, j'en appelle, comme nous avons l'habitude de faire, à la majorité. Et si notre majorité est pour la fuite, je vous l'avoue, je m'enfuirai de grand cœur. Et je serai ton compagnon, dit Ducoudic. Montesquieu peut être mieux renseigné que nous ne le croyons, et si c'est Dubois qui nous tient, comme le pense Mont-Louis, nous aurons quelque peine, je crois, à nous tirer de ses griffes. Et moi, messieurs, je vous le répète, dit Poncalet, qu'il faut rester. Le devoir des chefs d'une armée est de se faire tuer à la tête de leurs soldats. Le devoir des chefs d'un complot est de se faire tuer à la tête d'une conspiration. Mon cher, dit Mont-Louis, permettez-moi de vous le dire, mais votre sorcière vous aveugle. Pour faire croire à la vérité de sa prédiction, vous êtes prêt, le diable m'emporte, à aller vous noyer sans que personne vous y pousse. Je suis moins enthousiaste de la pythonisse, je l'avoue, et comme je ne connais pas le genre de mort qui m'est réservé, j'ai sur ce point quelques inquiétudes. Vous vous trompez, mon Louis, dit gravement Poncalec. Ce qui me retient surtout, c'est le devoir. D'ailleurs, si je ne meurs pas à la suite du procès, vous ne mourrez certes pas non plus, car je suis votre chef, et certes, devant les juges, je réclamerai ce titre que j'abjure ici. Si je ne meurs pas de par Dubois, vous ne mourrez pas non plus. Soyons logiques de par Dieu, et ne nous sauvons pas comme un troupeau de moutons qui croit sentir le loup. Comment nous, des soldats, nous aurions peur de rendre une visite officielle au Parlement? Car enfin, voilà toute l'affaire, un bon procès, et pas autre chose. Avant tout, messieurs, dit Ducoudic, Mont-Louis vient de faire une proposition, c'est de remettre notre décision à la majorité. J'appuie Mont-Louis. C'est juste, dit Alouette. Ce que j'en ai dit, reprit Mont-Louis, ce n'est pas que j'ai peur, mais que je ne voudrais pas aller me mettre dans la gueule du loup quand nous pouvons le museler. Ce que vous dites là est inutile, Mont-Louis, reprit Poncalec. Nous savons tous quel homme vous êtes. Nous acceptons votre proposition et je la mets aux voix. Et, avec le même calme que Poncalec formulait ses propositions ordinaires, il formula celle-ci dont dépendait sa vie et la vie de ses amis. Que ceux qui sont d'avis, dit Poncalec, de se soustraire par la fuite au sort équivoque qui nous attend, veuillent bien lever la main. Ducoudic et Mont-Louis levèrent la main. Nous sommes deux contre deux, dit Mont-Louis, l'épreuve est nulle. Laissons-nous donc aller à notre inspiration. Oui, dit Poncalec, mais vous savez qu'en ma qualité de président, j'ai deux voix. C'est juste, dirent Mont-Louis et Ducoudic. que ceux qui sont d'avis de rester lèvent donc la main, dit Poncalec. Et lui et Talouette levèrent la main. Or, comme Poncalec avait une voix double, ses deux mains, qui comptèrent pour trois, fixèrent la majorité à leur avis. Cette délibération en pleine rue, et avec cette apparence de solennité, eût pu paraître grotesque si elle n'eût pas renfermé dans son résultat la question de la vie ou de la mort de quatre des premiers gentilshommes de la Bretagne. « Allons, dit Montlouis, nous avions tort à ce qu'il paraît, mon cher du Quédic, et maintenant, marquis, ordonnez, nous obéirons. »« Regardez ce que je vais faire, dit Poncalec, et ensuite vous ferez ce que vous voudrez. » À ces mots, il marcha droit à sa maison, et ses trois amis le suivirent. Arrivé devant sa porte, barré, comme nous l'avons dit, par un piquet de garde, il frappa sur l'épaule d'un soldat. « Mon ami, lui dit-il, appelez votre officier, je vous prie. » Le soldat transmit l'ordre au sergent qui appela son capitaine. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda celui-ci. « Je voudrais rentrer chez moi. »« Qui donc êtes-vous ? » « Je suis le marquis de Poncalec. » « Silence, dit l'officier à demi-voix, silence et taisez-vous. Fuyez sans perdre une seconde, je suis ici pour vous arrêter. » Puis, tout haut, « On ne passe pas !» cria-t-il en repoussant le marquis, devant lequel se referma la haie de soldats. Poncalec prit la main de l'officier, la lui serra et lui dit « Vous êtes un brave jeune homme, monsieur, mais il faut que je rentre chez moi. Merci et que Dieu vous récompense. » L'officier, tout surpris, fit ouvrir les rangs et Poncalec, suivi de ses trois amis, traversa la cour de la maison. En l'apercevant, sa famille, rangée sur le perron, poussa des cris de terreur. « Qu'y a-t-il ? » demanda le marquis avec calme. « Et que s'est-il donc passé chez moi ?» Il y a, monsieur le marquis, que je vous arrête, dit un exempt de la prévôté de Paris à Poncalec, tout souriant. Pardieu, vous avez fait un bel exploit, dit Montlouis, et vous me paraissez encore un habile homme. Vous êtes exempt de la prévôté de Paris, et il faut que ce soit ceux que vous êtes chargés d'arrêter qui viennent vous prendre au collet. L'exempt, tout interdit, salua ce gentilhomme qui raillait si agréablement dans un moment où tant d'autres eussent perdu la parole, et lui demanda son nom. « Je suis monsieur de Montlouis, mon cher, répondit le gentilhomme. Cherchez bien si vous n'avez pas aussi quelque ordre contre moi, et si vous en avez un, mettez-le à exécution. » « Monsieur, dit l'exempt, saluant plus bas à mesure qu'il était plus étonné, ce n'est pas moi mais mon camarade Duchevron qui est chargé de votre arrestation. Voulez-vous que je le prévienne ?»« Où est-il ? » demanda Montlouis. « Mais chez vous, je présume, où il vous attend ?»« Oh, je serais fâché de faire attendre plus longtemps un si galant homme, dit Montlouis, et je vais aller le trouver. Merci, mon ami. » L'exempt avait perdu la tête et saluait jusqu'à terre. Montlouis serra la main de Poncalec, de Talouette et de Ducuédic, leur dit quelques mots à l'oreille et partit pour sa maison, où il se fit arrêter, comme l'avait fait Poncalec. Ainsi en usèrent à leur tour Talouette et Ducuédic, si bien qu'à 11 heures du soir, la besogne était achevée. La nouvelle de cette arrestation courut la nuit même par toute la ville. Cependant, on n'en fut pas encore très effrayé, car, après le premier mouvement qui était de dire « On a arrêté monsieur de Poncalec et ses amis », on ajoutait sur le champ « Oui, mais le Parlement les absoudra ». Mais le lendemain, les esprits et les visages changèrent fort lorsque l'on vit arriver à Nantes la commission parfaitement constituée et à laquelle rien ne manquait, ainsi que nous l'avons déjà dit, ni président, ni procureur du roi, ni secrétaire, ni même bourreau. Nous disons bourreau au pluriel parce qu'au lieu d'un, il y en avait trois. Les gens les plus courageux sont quelquefois frappés de stupeur par les grandes infortunes. Celle-ci tomba sur la province avec la puissance et la rapidité de la foudre. Aussi, la province ne fit-elle pas un mouvement, ne jeta-t-elle pas un cri. On ne se révolte pas contre un fléau. Au lieu d'éclater, la Bretagne expira.